cinémas du monde sur RFI.
One, two, three.
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
You talking to me?
Elisabeth Le Carré.
You talking to me? Cara Junior, you. Coelho. Passati fare a me. I take everything.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Alors cette semaine, à l'image de ce générique, on va se régaler en parcourant la filmographie de Robert De Niro à l'occasion de la parution de votre livre Guillaume et Vin. Bonjour.
Bonjour.
De Niro, la franchise, c'est son titre. Vous êtes écrivain, spécialiste de cinéma et à votre actif, une cinquantaine d'ouvrages. Steve McQueen, on va pas les citer tous, hein. Steve McQueen, Clint Eastwood, Audrey Hepburn, plus récemment Marlon Brando. Il y a un vrai fil rouge, monstre sacré chez vous.
C'est ça, exactement. Je suis fasciné par les légendes.
Et ce nouveau Robert De Niro l'a franchi. Je ne suis pas un acteur qui se contente de jouer un rôle. Je veux vivre le rôle. Alors peu d'acteurs auront vécu autant de vie que Robert De Niro. Petit voyou et grand mafieux, vétéran du Vietnam et jaloux pathologique, riche propriétaire foncier ou chauffeur de taxi psychopathe, De Niro a changé de visage et de corps au gré des rôles, autant de compositions élaborées avec un soin maniaque. Et on a le sentiment, Guillaume Évin, qu'il se glisse autant dans ses personnages que l'inverse.
Alors, oui et non. Je dirais que, contrairement à certains monstres sacrés que l'on connaît bien chez nous, type Jean Gabin, Alain Delon, c'est-à-dire que De Niro n'avait pas tendance à aimanter les personnages. En revanche, lui se glisse dedans avec jubilation, délectation. En fait, il est même obsessionnel. C'est-à-dire que son idée, c'est d'être le personnage. C'est probablement le meilleur acteur de composition du monde. Il est l'acteur caméléon par excellence. Effectivement, il peut tout jouer et il est crédible dans tous les rôles. On l'a rappelé, chauffeur de taxi, prêtre, espion, mafieux. Vous avez besoin de quelqu'un, vous prenez De Niro. Voilà. Et c'est ça qui est... En fait, je pense, la particularité de De Niro, c'est l'intensité dans l'identification. Voilà. C'est-à-dire qu'il va mettre tellement de lui-même, il va se préparer à un tel niveau... que finalement, en fait, il en donne beaucoup plus au cinéaste. Et en fait...
Mais il teinte aussi le personnage de sa personnalité.
Oui, mais en même temps, il a toujours dit, il est un nobody. De Niro, il est monsieur tout le monde. Et c'est ça aussi, il a une plasticité qui lui permet de se fondre dans tous les personnages. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, en fait, De Niro, il a jamais cherché à faire carrière. Il a une carrière, mais il a pas cherché à faire carrière. C'était pas un arriviste, un ambitieux. Bien sûr, il a voulu à un moment percer et vivre de son art, mais il n'était pas obsédé par la notoriété. Et d'ailleurs, on le voit, c'est un homme assez secret. Vous le voyez en interview, c'est une horreur. Les journalistes...
Ah oui ?
Ah ben oui.
Vous l'avez déjà rencontré ?
Moi, jamais. Mais toutes les interviews que j'ai pu voir, lire, les journalistes s'échinent à lui arracher deux, trois choses et il n'y arrive pas.
Au compte-gouttes.
Voilà. Lui, il ne parle que de son travail. Il va parler de la promo du film, mais sur sa vie privée, sur ses opinions... Vous pouvez toujours vous lever hein, pour avoir ce que vous voulez.
On peut toujours courir. Alors malgré cette difficulté, Guillaume Évin, vous allez nous faire revisiter la vie et l'œuvre de Robert De Niro. Mais avant, on fait un détour par le Maroc où la fréquentation en salle est florissante. Les cinémas ont fait le plein de spectateurs en 2024. Les chiffres annoncent que la fréquentation des salles obscures a augmenté de près de 30% en un an avec 2 200 000 entrées. Pour Mohamed Mehdi Ben Saïd, deux explications à ces bons résultats, l'ouverture de nouvelles salles et le renforcement de la concurrence qui a permis de stimuler l'offre cinématographique. Parmi les nouveaux arrivants, il y a le cinéma Pathé Californie, inauguré en décembre 2023 à Casablanca. Mathias Reynal est notre correspondant au Maroc. Il a rencontré son directeur.
Frédéric Godefroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des opérations Afrique de Pathé, entreprise française spécialisée dans l'exploitation cinématographique. Une entreprise très présente sur notre continent. Vous êtes en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui nous intéresse. Vous êtes implanté aussi au Maroc. Vous avez ouvert votre multiplex, le ciné Pathé Californie, il y a un peu plus d'un an. En 2024, vous revendiquez 500 000 spectateurs. C'est presque un quart du total des spectateurs marocains sur cette période. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir joué un rôle dans la hausse de la fréquentation des salles au Maroc ?
Oui, bien sûr. Lorsque nous avons décidé de nous implanter au Maroc, c'était également le but, c'était d'agrandir l'offre et automatiquement de proposer plus de choix aux spectateurs. Et c'est exactement ce que nous avons fait, puisque en effet, sur 2024, nous avons réalisé environ 500 000 entrées et les autres cinémas n'ont pas du tout perdu d'entrée. Donc, c'est un vrai dynamisme de l'exploitation cinématographique marocaine et également une très bonne exposition et une meilleure fréquentation des films marocains.
Alors justement, qu'est-ce que les spectateurs sont venus voir comme film au cinéma Pathé Californie en 2024 au Maroc ?
Eh bien, le premier film en termes d'entrée qui a été réalisé en 2024, c'est un film marocain, Ana Mechi Aina, qui a eu un énorme succès pendant plusieurs semaines. Et ensuite, nous avons également en deuxième position un deuxième film marocain, Zazou, qui a très très bien fonctionné, et seulement en troisième proposition, le blockbuster d'animation Vice Versa 3.
Ça, c'est quelque chose que vous aviez anticipé, le dynamisme de la production locale et l'engouement autour de ces productions ici au Maroc ?
Oui, c'était un objectif. Lorsqu'il y a une très bonne production locale, plus il y a d'exposition du film, plus le film sera vu. Et comme au Maroc, il y a une très bonne production, une très bonne énergie dans la production de films locaux, et les spectateurs ont envie de voir des films locaux. Donc, nous l'avions anticipé, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, on a un vrai retour très positif sur les films locaux.
Une dernière question qui va nous permettre de lancer le prochain sujet consacré au cinéma de quartier, au cinéma historique du centre-ville de Casablanca. Est-ce que vous n'avez pas peur de concurrencer et de mettre en difficulté ces petits cinémas dont la survie est aujourd'hui menacée ?
Non, pas du tout. L'on voit que plus on parle de cinéma, plus les gens ont envie d'aller au cinéma. Plus il y a une meilleure exposition du film, plus les gens ont envie d'aller voir les films. Donc, les cinémas mono-écran ont en général un ou deux films à l'affiche, donc ne peuvent pas avoir une multiprogrammation importante. Et ça s'est avéré exact dans tous les pays. Lorsque les multiplex arrivent, la fréquentation des autres salles ne baisse pas du tout. Nous avons eu le cas vraiment en Tunisie, où en 2018, la fréquentation tunisienne était de 600 000 entrées sur tout le territoire. Lorsque nous avons ouvert le premier cinéma à Tunis en décembre 2018, sur l'année 2019, nous avons fait 600 000 entrées et les autres cinémas avaient fait encore 600 000 entrées. Donc, nous avions doublé la fréquentation des salles.
Frédéric Godefroy, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
On l'a bien compris, pour 2024, les chiffres des multiplexes sont bons. Mais qu'en est-il des salles qui ne disposent que d'un seul écran ? Est-ce que ces cinémas de centre-ville, souvent, profitent de la hausse du nombre de spectateurs ? Au Maroc, on rappelle qu'une dizaine de salles sont encore en activité. C'est un reportage de Mathias Reynal à Casablanca.
Avec ses marches monumentales en marbre, son architecture années 50 aux lignes futuristes, le cinéma Lutetia est une institution du centre-ville de Casablanca.
Combien on a vendu de tickets pour cette séance ?
C'était la séance de 14h30. Et donc du coup, c'était 21 tickets. C'est pas terrible.
À 28 ans, Lamia Benjelloun cumule les fonctions. Elle est à la fois programmatrice et chargée de communication du Lutetia.
Aujourd'hui, je pense que c'est surtout les multiplexes qui profitent de cette hausse de la fréquentation. Nous, on est toujours à peu près dans les mêmes eaux. On reste à environ 14 000, 15 000 spectateurs par an. Je suis très heureuse que les gens retournent en salle, mais nous, ça reste compliqué. Enfin, j'aimerais que les gens viennent encore plus dans les salles de cinéma indépendant, dans le centre-ville, qu'on puisse ressentir aussi cette hausse-là.
Lamia se bat pour faire vivre l'endroit.
C'est un cinéma de famille, donc en fait, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Et j'ai commencé à aider mon père en 2020, lorsqu'il a décidé de rénover la salle, enfin avec une aide du Centre cinématographique marocain.
Siège venu d'Espagne, écran de Belgique, le Lutetia vient de se refaire une beauté. Après avoir sombré dans un long sommeil à la fin du XXe siècle, la salle renaît peu à peu et vise un nouveau public.
On a revu la programmation, on a essayé de garder des cinémas, des films commerciaux, grand public, et puis d'intégrer une programmation art et essai avec des films un peu plus pointus.
Scarlett.
Ashley, je vous aime, je le jure.
En fouillant dans les archives, Lamia a redécouvert l'âge d'or du Lutetia, quand dans les années 60-70, les cinéphiles marocains s'y donnaient rendez-vous.
Suis-je certaine de l'avoir, Ashley ? Je vous aime, je vous aime.
Il ne faut pas dire ces choses-là.
Autant en emporte le vent, un homme et une femme, ici ont été projetés par le passé les plus grands classiques du cinéma.
Détends-toi, Bobby, t'as gagné.
En ce mois de février, c'est le film Un parfait inconnu qui est à l'affiche et a attiré Anas, 31 ans.
Je préfère ce genre de cinéma. Tout ce qui est moderne, sophistiqué n'a pas le même charme. Quand tu viens dans ce genre d'endroit, ce type de monument historique, tu n'es plus en 2025, mais de retour dans les années 90.
À cette époque, il n'y avait pas encore de multiplex au Maroc. Le premier, le Mégarama de la Corniche de Casablanca, date de 2002. Il y en a aujourd'hui une dizaine dans le royaume.
On vous retrouve, Guillaume, après les Rolling Stones, notre clin d'œil, bien sûr, à la BO de Mean Streets. Jumping Jack Flash des Rolling Stones, la BO de Mean Streets qui scelle, Guillaume Évin, la rencontre entre Martin Scorsese et Robert De Niro. C'est pour l'un et l'autre, c'est la rencontre la plus importante de leur vie en fait.
Clairement. Juste un mot, ce que je trouve génial avec le pouvoir évocateur de la musique, si vous voyez par exemple ce tube des Stones, maintenant pour moi, il est associé à la scène grandiose où Bobby, Bob De Niro, donc alias Johnny Boy, déboule dans l'arrière-salle du café de Mean Streets. Et là, c'est génial. Il arrive.
Avec deux filles. Voilà, deux filles assises dans ses bras.
Exactement, avec son chapeau, etc. Et c'est incroyable. Et voilà. Et là, en fait, il est pourtant qu'un second rôle dans ce film, mais il est magnétique. Et en fait, on ne voit que lui. Il en vient presque à éclipser Harvey Keitel. Alors oui, la rencontre Bobby Marty, bah, c'est la rencontre d'une vie. Ils se rencontrent lors d'une soirée du Nouvel An en décembre 71, grâce à Brian De Palma qui leur a obtenu une invitation. Et bah, voilà, c'est un coup de foudre platonique qui ne dit pas son nom. Ils sont tous les deux assis, taiseux. Et puis l'un dit à l'autre, mais tu ne traînais pas quand tu étais jeune tu faisais pas partie du gang de Kenmare? Et puis De Niro le regarde. Et puis après un long temps de silence, il dit « Ouais ». Et voilà. Et en fait, les deux...
Le courant passe.
Les deux, qui n'ont en fait que 9 mois d'écart, se rendent compte qu'ils ont grandi à quelques rues l'un de l'autre, entre Little Italy et le Lower East Side à Manhattan. Et voilà. Et ils viennent, même s'ils viennent tous les deux de milieux très distincts, c'est ça qui est super, c'est que De Niro vient d'un milieu bohème artiste laïque, alors que Scorsese, lui, c'est un milieu conservateur catholique. L'un a traîné dans la rue, l'autre au théâtre. Et voilà. Mais finalement, en fait, ils partagent le même amour du cinéma. Ils adorent la nouvelle vague française. Ils sont faits pour s'entendre. Et puis, en plus, ils aiment les personnages marginaux.
Et puis, il arrive un peu au bon moment. Alors, De Niro, c'est pas tout à fait un débutant. Hein, au moment de Mean Streets, il a déjà joué, tourné 2 films avec Brian De Palma dans Greetings et Hi Mom. Mais on se dit que l'époque est faite pour lui. C'est-à-dire, c'est plus le moment des jeunes premiers à la Robert Redford, etc. Lui, il a un physique, comment le dire, c'est pas un jeune premier. C'est pas un premier prix de beauté. Et le cinéma de l'époque est fait pour lui.
C'est ça, il arrive à éclore au bon moment. C'est vrai qu'il a un physique passe-partout, il n'a pas le physique du gendre idéal, c'est pas une beauté renversante, effectivement, à la Robert Redford, ou même il n'a pas le sex appeal d'un Paul Newman, il n'a même pas le coefficient sympathie, je dirais, d'un Dustin Hoffman, il n'a pas le physique d'un Clint Eastwood, il n'a pas le charisme d'un Jack Nicholson, mais il a ce que les autres n'ont pas. Il a le talent, cette intensité surtout, on l'a dit, cette faculté à se glisser dans le personnage au-delà du raisonnable. Et grâce à Scorsese, eh bien, le tandem se forme avec Mean Streets. C'est la première de leurs 10 collaborations en 50 ans, donc l'acte 1. Et c'est loin d'être le plus mauvais. Finalement, Mean Streets va poser les bases de leur tandem. Le film a été très compliqué à monter, mais en fait, le résultat est assez épatant, même s'il ne va pas rapporter des millions au box-office. Mais ça y est, De Niro est lancé.
Et ça commence très fort pour lui, puisque en fait, dès les années 70, il va jouer dans Le Parrain 2, où il incarne Vito Corleone jeune. Il croise Marlon Brando. Alors aujourd'hui, c'est un peu une évidence. Mais en fait, il décroche le rôle de justesse.
Bien sûr, c'était compliqué.
D'ailleurs, c'était pas le rôle qu'il avait au début convoité.
Non, lui, bien sûr, il aurait voulu jouer le rôle de Sonny.
Joué par James Caan.
Voilà, James Caan. Ça ne se fait pas. C'est vrai que De Niro, il a un background assez limité par rapport à certains postulants. Après, on pense un moment à lui pour Michael. Et puis, en fait, non, ça ne correspond pas. Donc, finalement, on garde sous le coude et on lui offre donc le rôle de Vito jeune. Donc finalement, il va jouer le rôle que tient Brando, donc à 30 ans d'écart. Et puis ça va être une révélation. Là aussi, la méthode de Niro, il part en Sicile, il va s'imprégner du dialecte, il retourne aussi sur les traces de sa famille paternelle. Et donc en fait, il y a tout ce pèlerinage, il s'imprègne de la musicalité des dialectes siciliens. Et il est vraiment dans le personnage. Et d'ailleurs, il décroche l'Oscar du meilleur second rôle.
Et ensuite, il enchaîne avec un autre grand réalisateur, hein, puisque Le Parrain 2, c'est, comment ne pas le dire, c'est Coppola. Il va enchaîner avec Bernardo Bertolucci, où il joue aux côtés de Gérard Depardieu dans 1900, avant les retrouvailles avec Martin Scorsese, hein, les premières, mais certainement pas les dernières, pour le classique des classiques, Taxi Driver, soit Robert De Niro, alias Travis Bickle, errant dans les rues de New York au volant de son taxi.
All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. So Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me.
Driver 48th and 6th, please.
Un extrait de Taxi Driver 1976. Alors, dans Le Parrain, on ne l'a pas dit, mais il semble qu'il ait beaucoup observé Marlon Brando, puisqu'il devait jouer Brando jouait Vito Corleone vieux et lui, Vito Corleone jeune. Et donc, il observait la gestuelle de Brando en imaginant ce qu'elle pourrait être dans ses jeunes années. Taxi Driver, toujours la même méthode de Niro. Il va conduire un taxi pendant 2 semaines dans les rues de New York. Oui, c'est peut-être la légende.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Il a vraiment conduit le taxi. Il a même obtenu une licence.
Ah oui.
En fait, il bosse comme un damné. Bon, d'ailleurs, un mot sur avec Brando, mais en fait, ils étaient passés par la même école, l'Actor Studio, et plus précisément par les cours de Stella Adler. En fait, ils avaient eu la même professeure. Mais c'est vrai que pour Taxi Driver, ce qui est assez génial, c'est de se dire ce film qui est produit pour pas très cher, hein, l'équivalent de 8 millions aujourd'hui, qui est tourné en 40 jours à l'été 75, où là-bas, il y a la canicule, il y a également une grève des éboueurs. Donc ça, c'est génial, parce que ça sert complètement les dessins de Scorsese, puisqu'il va pouvoir filmer une ville à l'abandon, comme ça, gangrénée par les trafics et la saleté. Donc ça sert vraiment son propos. Et De Niro, là aussi, il est incroyable. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller à New York et de monter dans un taxi jaune, eh bien, vous vous prenez à imaginer que le conducteur, ça peut être De Niro. Et voilà, parce qu'il y a une force d'identification telle que, en fait, vous l'assimilez à jamais au rôle qu'il a tenu. Ça, c'est la puissance d'incarnation.
Guillaume Évin, on va pas, on est obligé, hein, en parlant de Taxi Driver, de citer cette réplique culte qui a fait des mèmes, qui a été imitée même par Vincent Cassel.
Oui, le fameux You Talking to Me.
Absolutely. C'est de l'impro?
Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans le livre, il s'est souvenu d'un concert de Bruce Springsteen auquel il a assisté. Et dans lequel, à un moment, le boss, le chanteur, dos à la scène, dit « C'est à moi que vous parlez. »
Le public est en train de l'ovationner.
Voilà, c'est ça. Et il dit c'est à moi que vous parlez. Et en fait, De Niro est scotché. Et finalement, et ça aussi, ça infuse lentement, mais de toute façon, tous les artistes se nourrissent les uns des autres. Et lorsque Scorsese fait tourner la caméra et lui demande de se lancer dans cette scène face au miroir, eh bien là, il y a le déclic et il a l'idée de reprendre cette improvisation de Springsteen et il l'a fait sienne. Et il ajoute évidemment tout le talent de Niro et voilà, et ça donne une scène culte.
En 78 commence ce que vous appelez la décade prodigieuse, hein, juste après Taxi Driver. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Est-ce qu'on peut dire que finalement il a eu de la chance aussi d'arriver au bon moment parce qu'il y avait toute cette génération qu'on appelait les movie brats, c'est-à-dire les cinéastes cinéphiles, les Scorsese, De Palma, Coppola, Cimino aussi, même s'il était un tout petit peu plus jeune, et il a tourné avec tous, sauf Spielberg.
C'est vrai, mais parce que De Niro, fondamentalement, correspondait à l'esprit du nouvel Hollywood qui a pris le pouvoir dans les années 70. Après, il a également 35 ans, donc en 78, et il arrive vraiment à maturité. Et c'est là où tous les films qui l'ont forgé, la reconnaissance publique et critique qu'il a obtenue avec Le Parrain, puis évidemment le Taxi Driver, il est en fait là au fait de sa gloire, et donc il peut se lancer vraiment dans des films qui sont monumentaux. Donc là, il y a le fameux Voyage au bout de l'enfer dont on va parler, Il était une fois en Amérique, entrecoupé de Raging Bull, qui va lui permettre d'obtenir son unique Oscar de meilleur acteur. Voilà, donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est la trilogie incontournable de Niro.
C'est ça, et il tourne avec Kazan Le Dernier Nabab, donc inspiré de Francis Scott Fitzgerald. Donc c'est sa seule véritable collaboration, en fait, avec un cinéaste de l'âge d'or hollywoodien. Et il retourne illico au présent de l'Amérique avec un nouveau classique.
I do three bullets. Three. We do three, huh? One, two, three.
La célèbre scène de roulette russe de Voyage au bout de l'enfer en 78. Donc je rappelle l'histoire. Il joue un ouvrier dans une usine sidérurgique de Pennsylvanie. Il part au Vietnam et bien évidemment, c'est un voyage dont on ne retourne jamais vraiment. Là encore, énorme préparation de sa part.
Oui, et d'autant qu'il n'était pas le premier rôle envisagé. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'au départ, même Cimino pensait à Roy Scheider.
Et pourtant, à la fin, c'est lui qui est sur l'affiche.
Voilà. Mais en fait, après, c'est comme une évidence. Et il va jouer le rôle de Mike, qui est en fait le personnage fascinant de ce film. Pour moi, un de mes préférés. Parce qu'en fait, Mike, c'est le plus intelligent de la bande. C'est peut-être aussi le plus individualiste. D'ailleurs, il le dit au départ qu'il est proche de Nick, mais finalement, c'est lui qui va porter tous les autres après. Il va devenir... En fait, il est marqué durablement par le Vietnam, évidemment, mais c'est le seul qui peut entrevoir de s'en sortir. Donc, en fait, finalement, ce film magistral, c'est sur avant, pendant et après le Vietnam. C'est pas un film sur la guerre, c'est un film qui raconte les conséquences du conflit sur trois jeunes Américains, trois ouvriers.
Sur les corps et les esprits.
Voilà, qui sont jetés dans un conflit qui les dépasse, qui pensent partir pour 2 mois et qui reviennent amochés et meurtris.
Zombifiés presque.
Voilà, l'un sera amputé, l'autre va devenir fou et le troisième aura perdu ses illusions.
Guillaume Evin, ce qui est très curieux dans la filmographie de Robert De Niro, c'est qu'il tourne rarement deux fois avec un même cinéaste. Et pourtant, il a tourné avec des grands. Cimino, c'est un immense cinéaste. Bertolucci, Sergio Leone. Il n'y a que Scorsese vers qui il y a une aimantation entre les deux. Vous parliez tout à l'heure, évidemment, de Raging Bull. Donc, un rôle un peu... un rôle bigger than life, plus grand que la vie. Il va prendre plus de 30 kilos. Apparemment, il avait déjà fait ça sur un film de Roger Corman où il en avait perdu 15. Al Pacino lui écrit une lettre que vous citez dans votre livre. Hein, je me permets de la reprendre. Donc, Al Pacino écrivant à Robert De Niro, « Je viens de voir Raging Bull et je ne m'en remets pas. C'est une œuvre monumentale et une inspiration pour moi. Tu es, je cite toujours, tu es d'une autre planète. »
Oui, c'est un formidable hommage. Là encore, méthode De Niro. Et d'ailleurs, c'est De Niro qui avait insisté auprès de Scorsese, qui à l'époque n'allait pas bien du tout. Il était alité, il était en grande dépression, son mariage battait de l'aile. Et c'est De Niro qui s'est battu, il lui a dit « Attends, j'ai le script qu'il te faut, Raging Bull. » Voilà, il lui apporte et il lui dit « Si ce gars-là s'en est sorti, toi aussi tu peux. » Et donc Scorsese va prendre les choses en main et il comprend qu'il tient là un script magnifique. Et De Niro va surpasser ses attentes. Il décroche enfin son Oscar tant mérité, tant attendu. Moi, j'aurais aimé qu'il le remporte pour Taxi Driver et pour Voyage au bout de l'enfer. Ça n'a pas été le cas. Enfin, l'Académie lui rend justice.
En 1984, encore et encore, De Niro revient à New York, mais cette fois-ci pas avec Scorsese. Dans Il était une fois en Amérique, Sergio Leone relate une histoire d'amitié et de trahison entre deux gamins. Alors, c'est pas ce qu'on va entendre dans cet extrait. Là, c'est plutôt une scène très romantique où il est avec son amoureuse dans un restaurant un peu chic.
Peut faire la bonne, l'enquête vaut.
Oh, I'll have the asperges, sauce vinaigrette, and then a chateaubriand.
Pommes frites?
Nature.
Comme dessert?
I'll decide later.
Monsieur?
I'll have the same.
For the wine?
You decide. I just have water.
You decide.
Thank you.
You've been around. Where'd you learn all them polypoo francais dishes? Who's teaching you that stuff?
Évidemment, il y a quelques scènes romantiques. Hein. Il en a tourné des scènes romantiques.
Oui, mais cette scène romantique, en fait, précède une scène terrible. Je ne vais pas peut-être déflorer le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais elle montre justement toutes les contradictions du personnage. Parce que dans ce film de Leone, il incarne en fait un gangster un peu minable qui finalement va vivre toute sa vie dans l'ombre de son grand ami et qui va le trahir et dont il ne se remettra jamais. Là encore, De Niro est exceptionnel parce que Là, pour le coup, il était le choix numéro un, dès le début de Sergio Leone, mais il ne va pas en faire trop. C'est-à-dire qu'il va être capable, là aussi, enfin, on dit dans ces cas-là, en pays anglo-saxon, underplay, c'est-à-dire qu'il va jouer légèrement en deçà pour ne pas justement tirer toute la couverture à lui, parce qu'en fait, il va coller au personnage. Grâce à lui, en fait, on voyage dans les mythes du rêve américain.
C'est vrai qu'en revisitant sa filmographie, grâce à votre livre, Guillaume Évin, on se dit finalement, est-ce qu'il a jamais joué un seul héros ? Non, il a toujours joué l'américain lambda, des rôles un peu médiocres, des grenades dégoupillées, beaucoup évidemment chez Scorsese. Sergio Leone dira « Il me semble que sur son visage sont peints tous les dialogues et toutes les angoisses du monde ».
Mais c'est ça.
Si c'est un compliment, il est à double tranchant quand même.
Non, parce qu'il est Monsieur Tout-le-Monde et il est le miroir sur lequel les cinéastes projettent toutes leurs obsessions, leurs fantasmes, leurs désillusions. Donc c'est pour ça qu'il a souvent incarné des anti-héros, des bad guys. Alors parfois, il a fait un pas de côté, il a pu, par exemple, dans Mission notamment, lorsqu'il joue le conquistador qui se convertit, là c'est un personnage plutôt positif, mais justement il n'est jamais monolithique, voilà, c'est quand même bon, c'est aussi lié à son physique hein, comme on l'a dit, un physique assez passe-partout, donc on ne pouvait pas plaquer sur lui l'image du jeune premier et donc lui coller tous les clichés afférents, donc voilà, De Niro a aussi joué là-dessus et les réalisateurs s'en sont servis.
Ces rôles d'anti-héros, Guillaume Évin, on en reparlera avec New York, New York, donc la BO du film éponyme, tournage épique, qui est grosse consommation de substances, pas toujours licite sur le plateau, mais au final un film superbe et l'unique face-à-face de Robert De Niro avec Liza Minnelli, à l'époque la compagne de Martin Scorsese. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm a king. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde pour cette émission spéciale Robert De Niro avec notre invité Guillaume Évin. Alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré Robert De Niro, mais vous avez beaucoup lu, beaucoup rassemblé de documentation. C'est quel genre d'homme ?
C'est un
Il
homme
est timide apparemment.
Très, 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 très timide.
Taiseux.
Foncièrement secret, mutique parfois. En fait, ce qui est fabuleux avec le cinéma pour lui, c'est que faire l'acteur lui a permis d'exprimer tout ce qu'il ne pouvait pas dire dans la vie. Voilà. C'est une manière pour lui de se dédoubler. C'est pour ça aussi que sa collaboration avec Scorsese a été si fructueuse, féconde, parce que
Scorsese, c'est l'inverse de lui.
Voilà. Exactement. Scorsese, c'est un moulin à paroles. Et en fait, il a vu en Bobby, en fait, son double. Et donc, il a pu projeter sur lui toutes ses obsessions, ses fantasmes. Il a pu faire de De Niro son porte-flingue, en fait, le méchant. Et à l'inverse, De Niro a pu endosser, comme ça, toute cette violence que ne pouvait pas exprimer Marty. Et voilà, en fait, pourquoi les deux s'entendent à demi-mot. Ils sont liés à vie et leurs films resteront à jamais. En revanche, il y a une filiation assez intéressante, c'est qu'on voit que De Niro a inspiré quantité d'acteurs après lui. Et je pense notamment à l'un qui est peut-être maintenant le meilleur acteur de sa génération et qui a beaucoup emprunté à De Niro, c'est DiCaprio. En fait, DiCaprio, c'est l'héritier de De Niro, à ceci près qu'il a également... Il a le physique de Robert Redford. C'est-à-dire qu'il a le côté jeune premier, plus la dimension...
Polymorphe.
Voilà, caméléon, identification, intensité d'un De Niro. C'est pour ça qu'en fait, DiCaprio est devenu incontournable.
Et d'ailleurs, les deux sont devenus, à deux générations d'écart, les acteurs fétiches de Martin Scorsese. Donc, il n'y a probablement pas de hasard. Mais pour revenir à De Niro, donc c'est la fin de la décade prodigieuse, hein, la fin des années 80. Donc, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il peut jouer des seconds rôles et enchaîner avec des premiers rôles complètement écrasants. Il n'a pas de problème. Il va jouer, par exemple, dans Brazil ou Mission, que vous citiez tout à l'heure. Voilà, des rôles absolument secondaires. Il retrouve Brian De Palma dans Les Incorruptibles, où il joue rien de moins Al Capone. Puis, évidemment, hein, c'est inéluctable, Martin Scorsese revient et lui offre un nouveau rôle dans Les Affranchis. Comme d'habitude, De Niro joue une sorte de grenade dégoupillée, hein, un personnage dont la violence intérieure est prête à exploser à tout moment.
I've been telling you your whole life. Don't talk on a fucking phone, right? Now you understand? Huh? It's gonna be okay. I think you got a good chance of being the case. But you know that kid? You know, from the city we're talking about? You know what I'm talking about.
Yeah.
The kid turned out to be a rat. As soon as he got pinched, he ratted everybody out. He ratted us all out.
Voilà, un petit dialogue entre Joe Pesci et Robert De Niro.
Oui, alors, il faut dire quand même une chose sur Les Affranchis, c'est que De Niro ne tient qu'un second rôle, entre guillemets. Mais c'est lui qui a insisté auprès de Scorsese. Il lui dit, non, tu vas donner le premier rôle à Ray Liotta et moi, je vais jouer le parrain dans l'ombre. Mais,
et qui, à l'époque, Ray Liotta n'était pas connu
du tout.
Non,
du tout. Mais, et c'est là où De Niro est très fort, c'est qu'il a compris qu'en fait, le meilleur rôle, c'était peut-être celui du parrain et que lui allait justement lui apporter quelque chose qu'un autre n'aurait pas pu lui donner. C'est là où De Niro, voilà, où je disais qu'il n'a... C'est pas un arriviste, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à faire carrière. Il a bâti une carrière. Et toute la nuance est là, c'est que lui, un second rôle, ça lui convenait très bien, même s'il aurait pu prétendre au premier rôle. Mais la question n'était plus là.
Robert De Niro, Martin Scorsese, en fait, c'est un vrai couple de cinéma, comme Cassavetes et Jenna Rolland, ou Marlène Dietrich et Von Sternberg. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Casino, donc il tourne juste après Les Affranchis, mais les partenaires de Robert De Niro ont beaucoup de mal à exister face à Scorsese. Sharon Stone va s'en plaindre, d'ailleurs, qu'il s'enferme tout le temps dans l'appartement de Niro, et qu'elle, en fait, on lui donne pas d'indication.
Oui, alors Sharon Stone va peut-être s'en plaindre, néanmoins c'est quand même le meilleur rôle de sa carrière.
Donc, c'est clair.
Voilà, donc certes, oui, j'imagine que les comédiens sur le plateau sont tous un peu jaloux de la connivence qui lie ces deux hommes par-delà les années, mais en même temps, ça sert le film. Et in fine, par exemple, Joe Pesci a obtenu son Oscar de meilleur second rôle dans Les Affranchis. Bon, donc finalement, en fait... Dans ces cas-là, quand il y a un tandem très fort qui semble écraser le projet, finalement, en fait, tout le monde en profite.
On n'a pas dit qu'il a tourné aussi des films Robert De Niro, dont le premier à 50 ans. Il était une fois dans le Bronx. Vous vous étendez assez peu sur ce film, Guillaume Évin.
C'est une des deux seules réalisations, hein, avec Raison d'État, là, un film d'espionnage. Non, là, c'est intéressant parce que dans le premier, il va s'octroyer le rôle du chauffeur de bus, le père d'un garçon qui est évidemment attiré par le clinquant du parrain local. et donc le père va s'efforcer de garder son fils dans le droit chemin. Et en fait, là, c'est assez touchant parce que De Niro montre qu'en fait, les vrais héros, ce sont justement ces anonymes, ces pères de famille qui se lèvent tôt le matin, qui triment pour faire vivre leur famille. Et c'est pas le pseudo-caïd du quartier, lui qui a longtemps joué les caïds. Donc, c'est un film assez sobre, touchant et assez poignant. Et il est très juste. Et puis après, donc, l'autre film qu'il va tourner...
Avec Angelina Jolie.
Donc là, oui, voilà. Et Matt Damon, là, ça n'a rien à voir. Là, on est dans un film d'espionnage, très, 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 très bien ficelé, qui montre un peu les tourments de la CIA.
Guillaume Évin, il faudrait bien plus d'une heure pour parler de cette filmographie immense de Robert De Niro. Alors, bon, on peut citer évidemment sa rencontre avec Michael Mann dans Heat. Deux belles rencontres, hein, puisque le film, celle entre Al Pacino et De Niro. De Niro, c'est un chef de gang. Al Pacino, c'est le flic qui le traque. Et c'est vraiment une rencontre au sommet entre deux monstres sacrés du cinéma américain.
Oui, alors pendant 15-20 minutes, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui est le méchant et qui est le flic. Michael Mann a joué volontairement de l'ambiguïté. Ils auraient pu être... les rôles étaient presque interchangeables. C'est deux faces, en fait, d'une même pièce. Et enfin, on l'attendait.
Comme toujours chez Michael Mann.
Voilà, et moi, ça faisait des années que je l'attendais, parce qu'évidemment, dans Le Parrain, ils ne peuvent pas se rencontrer, puisque l'un joue le père de l'autre. Mais là, une époque où il n'était pas né. Et là, enfin, on a cette rencontre Pacino-De Niro, les deux meilleurs de leur génération, biberonnés à l'Actor Studio. Tout le monde attend ça.
Qui se connaissent dans la vraie vie, mais qu'on n'a jamais vu réunis sur le grand écran.
Ils se connaissent, on l'a rappelé. L'un voue une admiration sans borne depuis qu'il a vu le Raging Bull. L'autre n'a jamais perdu de vue la carrière du premier. D'ailleurs, De Niro aurait rêvé d'interpréter Michael, mais il reconnaît que Pacino est exceptionnel. Bon, bref, enfin, ils sont là, face à face. Après, ils reviendront dans deux autres films, et notamment un avec Scorsese. Mais Heat, c'est un sommet.
Au début des années 2000... Bon, De Niro slalome un peu, il tourne énormément, pas toujours des chefs-d'œuvre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la fibre comique qu'on avait pu déceler dans des films précédents va triompher dans un film qui va être un carton total de box-office et qui va être évidemment donné lieu à plusieurs suites. J'ai cité « Mon beau-père et moi » de Jay Roach en 2000. Il joue un père possessif et paranoïaque face à Ben Stiller.
Morning, Greg. Good morning. Pam told me she let you in on a little secret of mine last night. Yes, she did. Well, as long as you can keep your mouth shut for the rest of your life, you're in no immediate danger.
I won't tell.
I'm just being humorous.
Huh, that's funny.
But the fact is, Greg, with the knowledge you've been given, you are now on the inside of what I like to call the Burns family circle of trust. I keep nothing from you, you keep nothing from me, and round we go.
Okay. Understood.
On entend la voix étranglée de Ben Stiller, complètement terrifié.
Il est tétanisé.
Par son beau-frère.
Par son beau-père. Oui, c'est sûr que quand vous avez un beau-père comme De Niro, comme ça, là, c'est... méfiance.
Et il est génial en acteur.
Oui, il est génial parce que, mais on avait déjà eu un aperçu de cette palette comique dans Midnight Run, un film de 1988 de Martin Brest, où il avait fait un pas de côté justement dans la comédie. On avait été surpris et ça avait fonctionné. Et puis bon, après il avait été happé par ses grands projets. Et lorsqu'il y revient comme ça là au tournant des années 2000, De Niro se fait plaisir et il est très bon. Et là aussi, il est dans un second rôle, mais avec toujours ses mimiques inimitables, ses clignements d'yeux qui sont sa marque de fabrique, sa gestuelle, puis sa voix. Donc, en fait, il joue aussi avec la mythologie de Niro. Donc ça, c'est très bien vu. Et alors, on va le revoir ensuite dans Mafia Blues, où là, il va camper un chef mafieux, mais qui est en dépression, qui va consulter un psy, qui est joué par Billy Crystal. Et évidemment, le psy, il n'est pas très rassuré, parce qu'il est face à un chef de gang, on ne lui laisse pas le choix, il doit absolument le soigner, et l'autre doit quand même tenir son rang. Donc là aussi, c'est un face-à-face assez savoureux entre le docteur et le criminel.
C'est une sorte sorte de prémisse de la série Les Sopranos, en fait.
Un peu, exactement.
Guillaume Évin, vous écrivez que dans les années 2000 et 2010, il tourne beaucoup. Il se fourvoie beaucoup, il enchaîne des seconds rôles, des voix pour des films d'animation, avant bien sûr, alors comme toujours, les retrouvailles avec Martin Scorsese dans deux grands films, Killers of the Flower Moon, et puis un tout petit peu avant The Irishman en 2019, c'est le portrait d'un, sur plusieurs décennies, d'un tueur à gages de la mafia.
Sooner or later, everybody put here as a date when he's gonna go. That's just the way it is. And I think that there's got to be something when you go, because, I mean, how the hell did this whole thing start? People smarter than me can't figure it out. That's why I would never go for cremation, because it's so final.
On vient d'entendre, Guillaume Évin, un extrait de The Irishman, donc un film au budget colossal, 160 millions d'euros. Et c'est très... la boucle est bouclée, en quelque sorte. Vous le mettez en miroir avec Robert Redford, mais c'est vrai que Robert De Niro, il a toujours incarné la violence de l'Amérique, le côté noir, hein, le côté obscur du rêve américain. Et face à lui, l'autre Robert Redford, serait un peu le dernier des jeunes premiers.
En fait... Redford, c'est l'Amérique qu'on aime. C'est l'Amérique lumineuse.
Blonde.
Blonde, positive, c'est la Californie, c'est le rêve américain dans toute sa splendeur. Et De Niro, c'est un peu la face sombre, mais les deux sont complémentaires. Donc, si j'avais trois films à recommander pour découvrir De Niro, je dirais Taxi Driver, Voyage au bout de l'enfer et Raging Bull.
On se quitte en musique avec cet hommage du groupe Bananarama, Robert De Niro, Robert De Niro's Waiting. Merci Guillaume Évin. On rappelle le titre de votre livre De Niro, l'affranchi, paru aux éditions Hugo Images. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré. C'est Apolline Verlon qui a réalisé cette émission. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.